Vous écoutez, on lit pour vous.
Les tabous tombent, un texte d'Olivier Picard, paru le 16 juillet 2025 dans la presse. En 2016, Joshua Caccione fait le grand plongeon. Fasciné par la natation artistique, il fait ses débuts dans ce sport à l'âge de 8 ans. À ce moment-là, il n'y a que 2 nageurs masculins mineurs à l'échelle de la province. Aujourd'hui, il entraîne 3 garçons au club R2P. Et plusieurs autres garçons s'essaient à ce sport presque exclusivement féminin, comme Romain Charron de Beaconsfield. En 2014, la Fédération internationale de natation, FINA, a autorisé la participation des hommes en natation artistique. Dennis Gonzalez-Bonneux, Ranjuo Tomblin et Edward Kim sont parmi les jeunes athlètes masculins qui se sont hissés jusqu'au championnat du monde aux épreuves de natation artistique en juillet 2025 à Singapour. À savoir, en 2017, la FINA a modifié le terme « nage synchronisée » pour « natation artistique » afin de mieux représenter la discipline, rapporte Natation artistique Québec, l'institution qui réglemente le sport dans la province. Il a fallu 10 ans de plus pour que les hommes soient admis en natation artistique aux Jeux olympiques. Ce n'est que depuis les Jeux de Paris en 2024 que chaque équipe de 8 personnes peut comprendre jusqu'à 2 hommes, a décrété le Comité international olympique. Au Québec, Joshua Caccione est une figure de proue masculine du sport. Il a commencé une sorte de tendance. On voit beaucoup plus de jeunes garçons dans les équipes U10 de natation artistique, dit Sacha Bensoussan, sa partenaire de duo mixte. À la piscine de Rosemont, la petite patrie, Victoria, Sacha et Josué font des entraînements sous la supervision de leurs entraîneuses. Stella Forlini impose le rythme sous-marin en percutant un cercle métallique sur une barre d'acier qui plonge dans l'eau. Culbute et éclaboussure sont au rendez-vous. Briser les codes. Josué confie que sa présence surprend positivement. Les remarques désobligeantes ne font pas du tout partie de son quotidien. J'ai été surpris qu'il y ait beaucoup de papas qui viennent me voir pour me dire « C'est cool ce que tu fais », raconte-t-il au bord de la piscine Père Marquette. C'est l'homme avec qui je suis le plus en sécurité. On est meilleurs amis, dit Victoria Verdi, sa partenaire en duo mixte technique. Les stéréotypes de genre sont tenaces. Chez les juges, déplore Stella Forlini, co-entraîneuse. Ceux-ci sont parfois réfractaires face à l'approche du duo de Sacha et Josué, où le jeune homme n'est pas le faire-valoir de Sacha, comme c'est généralement le cas dans les duos mixtes. On nage moins comme un couple, ça surprend les gens. Au bout du compte, on aborde ça comme un duo féminin. On met autant de l'avant le garçon que la fille, explique Sacha Bensoussan. Contrairement à ce qu'on voit dans les duos mixtes en général, c'est le jeune athlète masculin qui se fait propulser dans les airs par sa partenaire. Josué est le voltigeur parce que, objectivement, les filles Victoria et Sacha sont plus fortes des jambes, dit Stella Forlini. Romain Charron, 13 ans, est nageur artistique au club de Beaconsfield depuis 3 ans. Il étudie à l'École supérieure de ballet de Montréal en sport-études et a commencé la natation artistique par l'entremise de ses 2 sœurs qui la pratiquent. Le soleil plombe et les enfants jouent dans le bassin. Romain, lui, perfectionne sa technique avec ses camarades. Le jeune adolescent dit admirer le talent de Caccione. Pour lui, la natation artistique, c'est comme de la danse dans l'eau. Il se sent à son aise, dit-il, comme au ballet. L'hiver 2025-26, Romain espère concourir au niveau provincial, explique-t-il en entrevue à la presse. Quand tu dis que ton garçon fait du ballet, il y en a beaucoup qui disent « Moi, mon conjoint ne voudrait pas », lance Virginie Drogue, mère de Romain. Les préjugés à l'endroit des garçons sont semblables en natation artistique. « Moi, ça ne m'a jamais dérangé. J'ai toujours trouvé ça beau », dit-elle. Selon Madame Drogue, Victoria et Sacha, la discipline est beaucoup plus pratiquée par des hommes en Amérique latine. Un chemin à défricher. Malgré les efforts de natation artistique Québec, certaines compétitions ne sont pas accessibles aux hommes, indique Lilou Lentz, co-entraîneuse à R2P. Aux Jeux du Québec, il n'y a pas de représentation masculine dans la synchro, ni en duo, ni en solo. La catégorie n'existe pas, ajoute-t-elle. Comme c'est un sport féminin, les garçons ont une réticence à venir dans le sport, souligne Victoria Verdi. Même constat pour Sacha Bensoussan. Les garçons gardent une gêne parce qu'il y a un tabou, dit-il. Mais il y a des portes qui s'ouvrent maintenant. Toutefois, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les gars, souligne Joshua Caccione. Comme les duos mixtes sont rares, ses partenaires et lui ont été invités au championnat panaméricain junior du Paraguay en 2025. Malheureusement, ils n'ont pas pu aller compétitionner en Amérique du Sud pour différentes raisons techniques. Aux Jeux olympiques de Paris et aux championnats du monde de Doha en 2024, aucun homme ne représentait l'équipe canadienne. Les athlètes masculins canadiens sont aussi absents à Singapour. Le rideau s'ouvre sur les hommes en natation artistique. On voit de plus en plus que les stéréotypes sont brisés. Une fois que tu te rends au bout, ça vaut vraiment la peine pour les parents et pour les athlètes, conclut Joshua Caccione. C'était « Les tabous tombent », un texte d'Olivier Picard, paru le 7 juillet 2025 dans la presse.
Rwanda Preneur mobilise la diaspora pour une Afrique entrepreneuriale. Un texte de Patrick Bizine-Davilly, paru le 27 juin 2025 dans l'Express.ca. Toronto a accueilli le 26 juin le Forum africain sur le commerce et l'investissement. Il s'agit d'une initiative organisée par Rwanda Preneur, une plateforme torontoise rwandaise dédiée à l'autonomisation des entrepreneurs à fort potentiel au Rwanda et dans la diaspora africaine. L'événement, tenu à Entrepreneur Point au centre-ville de Toronto, a réuni un public varié. Investisseurs, experts en technologie, chefs d'entreprise, universitaires, représentants communautaires et membres de la diaspora africaine installée au Canada. Créer des ponts durables entre deux mondes. Il y a une forte demande d'investissement et d'opportunités, mais beaucoup de chefs d'entreprise manquent d'orientation, explique Roxana Isamurera, conseillère stratégique pour Rwanda Preneur. Selon elle, le forum répond à un besoin de connexion réelle entre porteurs de projets et partenaires. L'Afrique a des idées, la diaspora a des réseaux et des compétences. Il faut créer des passerelles concrètes pour traduire les idées en action. Cette première édition Diaspora s'inscrit dans une série d'initiatives menées par Rwanda Preneur pour appuyer les créateurs d'entreprises à fort impact et bâtir un écosystème entrepreneurial afrocentrique. L'objectif est clair, mobiliser capital, capacité et connexion pour stimuler une croissance durable sur le continent africain avec le soutien stratégique de la diaspora. Panel et réseautage stratégique. La journée a été rythmée par plusieurs panels thématiques. Commerce, infrastructure, intelligence artificielle, finances et développement économique. Des experts ont notamment débattu du rôle des données et de l'IA dans la transformation du commerce africain. Le tout s'est clôturé par un cocktail de réseautage, permettant aux participants de nouer des contacts directs dans une ambiance conviviale. Parmi les intervenants, Ali Souma, président de AS Business Center, a mis l'accent sur un élément central, l'exécution. L'information est disponible. Ce qui manque, c'est la capacité d'agir. Une mauvaise idée bien exécutée vaut mieux qu'une excellente idée jamais réalisée. Pour avancer, il faut de l'appui, des ressources, des connexions et surtout, il faut passer à l'action. Un contexte favorable aux opportunités Canada-Afrique. Dans un contexte géopolitique où le Canada cherche à diversifier ses exportations, l'Afrique émerge comme un partenaire de choix. EDC, Exportation et Développement Canada, a annoncé 5 milliards de dollars pour soutenir les exportations hors États-Unis. C'est une opportunité à saisir, surtout dans des secteurs comme l'agriculture, l'habitation, les énergies propres ou la fintech, souligne M. Souma. Il rappelle aussi que les financements, les assurances de contrat et les partenaires techniques existent bel et bien. Le défi réside dans la mise en relation et dans l'adaptation aux réalités de terrain. Il faut accepter certaines logiques locales, budgéter intelligemment et surtout comprendre que l'Afrique, c'est un terrain d'opportunité, mais aussi de complexité. La diaspora, moteur de synergie. Pour Alphonse Baricage, président de RCA Toronto, Rwanda Community Abroad, la diaspora a un rôle essentiel à jouer dans cette dynamique. Fort d'une communauté estimée à 4000 personnes dans la région de Toronto, RCA mise sur des échanges économiques, sociaux et culturels pour renforcer les liens avec le Rwanda. Nos membres sont parfois dispersés, isolés, mais ils ont une envie réelle de contribuer. Ce type d'événement montre que c'est possible. On peut investir, collaborer et avoir un impact à la fois ici et là-bas, explique-t-il. Il souligne également l'importance de sensibiliser la jeunesse, d'honorer les mémoires et de renforcer les synergies entre associations de femmes, de jeunes et d'entrepreneurs. Un forum qui ouvre des perspectives. Le Forum africain sur le commerce et l'investissement aura permis, en un après-midi, de semer des graines de projets, de collaborations et de rêves à réaliser. Pour WandaPreneur, il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais d'un mouvement de fond. Comme le rappelle Roxana Isa Moreira, ce forum, c'est un début. Ce qu'on vise, c'est un écosystème vivant, durable et connecté. C'était Rwandapreneur mobilise la diaspora pour une Afrique entrepreneuriale. Un texte de Patrick Bizindavii, paru le 27 juin 2025 dans l'Express.ca.
Client fantôme, la pénalité de 10 $ confirmée pour le 17 juillet 2025. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 3 juillet 2025 dans La Presse. On ne manque pas d'idées à Québec pour créer des lois qui ont un impact concret dans notre quotidien, nos habitudes et même notre savoir-vivre. Au ministère de l'Économie, on aimerait nous permettre de magasiner nos chaussures les samedis jusqu'à 20 heures en prolongeant les heures d'ouverture des commerces. Un projet pilote se déroulera à Laval, à Gatineau et à Saint-Georges, en Beauce, à la fin de l'été 2025, nous a appris le Journal de Québec. Le ministre Christopher Skeet souhaite que les entreprises choisissent elles-mêmes leurs heures d'ouverture, comme c'est le cas ailleurs en Amérique du Nord, mais ils n'osent pas aller si loin, du moins pour l'instant. Espérons que les résultats seront rendus publics. Car ouvrir plus tard ne donne pas aux clients plus d'argent à dépenser. Qui ouvrira? Qui n'ouvrira pas? Et qu'arrive-t-il quand les frais d'exploitation grimpent, mais pas les ventes? Les prix sont revus à la hausse, l'offre est modifiée ou le service diminue. Fermer devient la solution simple, sauf quand les concurrents restent ouverts. Pendant que les adultes auront la liberté de magasiner plus longtemps, les élèves devront apprendre à vivre sans leur cellulaire en classe et se préparer psychologiquement à ne plus tutoyer leur professeur. L'interdiction du tutoiement entrera en vigueur en janvier, confirme le règlement, publié mercredi. Le ministère de l'Éducation veut ainsi renforcer le civisme dans les écoles. Si je vous en parle, c'est parce qu'il n'est pas le seul. Le ministre de la Justice veut, lui aussi, renforcer le civisme, mais des adultes qui réservent au restaurant. Comme prévu, il va permettre aux restaurateurs d'imposer une pénalité de 10 $ à ceux qui réservent une table au restaurant et qui, aux surprises, ne se pointent jamais. Le règlement, publié lui aussi dans la Gazette officielle du Québec, entrera en vigueur le 17 juillet 2025. Comme je l'ai déjà écrit, c'est presque gênant de voir l'appareil gouvernemental mobiliser ses ressources pour réglementer le simple savoir-vivre. On est rendu là. Les restaurateurs auraient préféré que la pénalité soit augmentée à 20 $. Mais le ministre Simon Jolin-Barrette n'a pas acquiescé à leur demande. Son cabinet rappelle que l'objectif est de changer les comportements, pas de compenser les pertes de revenus. Il a cependant révisé à la baisse la taille des groupes visés par le règlement. Toute réservation pour 2 personnes ou plus y sera assujettie, plutôt que 5 comme prévu. C'était l'une des demandes de l'Association Restauration Québec, ARQ, qui voulait protéger le secteur gastronomique, fréquenté surtout par des couples et des quatuors. Par ailleurs, les restos devront utiliser une plateforme de réservation pour imposer l'amende. Cette technologie devra être utilisée pour transmettre une confirmation dans un délai de 6 à 48 heures avant l'heure prévue et un hyperlien permettant d'annuler facilement la réservation. Bien sûr, cela suppose qu'à compter de la mi-juillet 2025, les clients devront fournir leur numéro de carte de crédit, mais aucun montant ne pourra être prélevé d'avance. Ceux qui réservent pour 8 ou 12 personnes craignent tellement qu'on leur facture une pénalité qu'ils appellent pour annuler, m'a raconté un restaurateur, qui exige illégalement un numéro de carte de crédit pour confirmer les réservations de groupe. Autrement dit, la stratégie fonctionne. Et c'est tant mieux. Selon un sondage mené par l'ARQ, 68 % des restaurants utilisent une plateforme de réservation en ligne. Le coût est d'environ 100 $ par mois. Le propriétaire de Madame Taille, dans le Vieux-Longueuil, juge que ça ne vaut pas la peine pour son établissement peu affecté par les absences. Ce que ça me coûterait pour avoir la plateforme, plus les frais par réservation, tout ça pour avoir un 10 $ occasionnellement, ce n'est pas bon pour moi, m'a dit Francis Rodrigue. Dans ses 4 autres restaurants, c'est différent. Il accueille donc favorablement le nouveau règlement, même s'il présente des lacunes, dit-il. L'entrepreneur tout comme la RQ, espérait pouvoir facturer une pénalité quand une seule partie d'un groupe se présente. Là, on peut avoir une table de 10 et une seule personne qui vient et on ne peut rien faire, déplore le porte-parole de la RQ, Martin Vézina. Il aurait préféré qu'un certain ratio soit inclus dans le règlement. Propriétaire du Saint-Boc, rue Saint-Denis, Martin Guimond est un habitué du fléau. Dernièrement, un groupe de 40 personnes a annulé 10 minutes avant l'heure de sa réservation. Et ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Des groupes de 40 qui fondent à 15, c'est fréquent. Il y a quelques années, sur un groupe de 80 personnes, seulement 2 ont franchi la porte de la brasserie. Ça fait vraiment mal. C'est un manque de respect, en réalité. Pour les groupes de 2 personnes, Martin Guimond n'est pas certain qu'il va imposer la pénalité. Mais à partir de 6, il n'hésitera pas une seconde. Il craint toutefois des contestations. Certains clients appellent déjà leur banque et prétendent ne jamais être allés au Saint-Boc pour obtenir un crédit, entre autres en tourloupette. C'est pour ça qu'on garde tous les relevés, raconte l'entrepreneur qui en voit de toutes les couleurs. Un peu comme les professeurs, qui n'arrivent jamais au bout de leur surprise, finalement. Résultat, le savoir-vivre est maintenant réglementé et les bonnes manières sont publiées dans la Gazette officielle du Québec. C'était « Client fantôme, la pénalité de 10 $ confirmée pour le 17 juillet 2025 ». Un texte de Marie-Ève Fournier paru le 3 juillet 2025 dans La Presse.
Vous êtes en train de jouer à la roulette russe avec la nature. Un texte de Loïs Barahona, William Boulet-Sandoval, Chloé Chéré, Jacob Drouin et Mylène Faye, paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir. Élèves d'une classe de 5e et 6e année, les auteurs co-signent cette lettre avec leurs confrères et consoeurs Marcus François Saint-Maur, Elwen Krebs, Elsa Malenfant, Estelle Rose Plamondon, Noé Babaz, Léon Bouvier-Pelletier, Zoé Buendia-Quinones, Clara Chassin de Kergomo, Léa Rose Dahan, Paul Grandjean Nessler, Pierrot Lepage, Maxence Paillon et Kylian Quénin. Ils ont entre 10 et 12 ans. Le 23 avril 2025, notre classe a lu un article au sujet du projet de loi visant à réserver le tiers des forêts publiques du Québec à l'industrie forestière et nous sommes en désaccord. La ministre des Ressources naturelles et des forêts du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, propose cette réforme pour rendre la forêt soi-disant plus productive. Elle dit qu'avec ça, nous produirons 4 fois plus de bois. Mais pense-t-elle aux animaux et aux écosystèmes? Pense-t-elle à nous? Le 9 juin 2025, elle a dit vouloir apporter des amendements importants à son projet de loi. Nous en sommes heureux et nous aimerions qu'elle prenne en compte les arguments suivants dans sa réflexion. En ce moment, il y a 906 000 km² de forêt au Québec, ce qui représente 50 % du territoire québécois, et 92 % des forêts sont publiques. Le projet de loi donnerait donc 302 000 km² à l'industrie forestière, ce qui correspond au territoire de l'Italie. Les arbres jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, la purification de l'air et la préservation de la biodiversité. Ils produisent notamment de l'oxygène grâce à la photosynthèse. En moyenne, un hectare de forêt produit entre 10 et 15 tonnes d'oxygène par an. Moins d'arbres signifie donc moins d'oxygène dans l'air, ce qui pourrait entraîner une diminution de la qualité de l'air que nous respirons. La ministre prétend vouloir aider les personnes qui travaillent dans l'industrie forestière à avoir plus d'argent. Mais ça n'aide personne de détruire l'environnement. Si on détruit l'environnement, on va tous mourir. Et quand on sera mort, l'argent ne servira plus à rien. Cette décision aura aussi de grandes répercussions sur les Premières Nations qui ont une culture liée à la nature. En détruisant leurs forêts, c'est l'histoire de leur peuple qu'on enlève. Les animaux vont en souffrir aussi. Au Québec, on compte actuellement 180 espèces menacées ou vulnérables, ou susceptibles de l'être. Les animaux qui habitent dans le tiers des forêts qui pourraient se faire couper perdraient leur habitat et devraient aller dans les deux autres tiers pour se créer un nouvel habitat. Ils devraient donc partager la nourriture avec les autres animaux. Et nous, on va finir par manquer de nourriture aussi et leur prendre la nourriture qui reste. C'est difficile de se mettre à la place des animaux puisque nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire. Avant celui de François Legault, aucun gouvernement n'avait cherché à instaurer une règle en précisant qu'elle serait irréversible, c'est-à-dire qu'aucun futur gouvernement ne pourrait la modifier. Or, dans une démocratie, les gouvernements successifs doivent pouvoir adapter les lois et les règles en fonction de l'évolution de la société, des besoins des citoyens et des nouvelles réalités politiques ou économiques. La ministre des Ressources naturelles a pour mission principale de protéger et de maintenir la santé des forêts, ce qui comprend les arbres et les plantes qui y vivent. En cédant un tiers des forêts à l'industrie forestière, elle semble contredire cet objectif. Dans un document publié par le gouvernement du Québec en 2021, intitulé « La forêt démystifiée », on peut lire que moins de 1 % de la superficie des forêts publiques destinées aux coupes forestières est récoltée annuellement. Alors pourquoi leur en donner plus? On agit comme si nos forêts étaient illimitées. Mais si les gens avant nous avaient fait la même chose, on n'en aurait plus. Si on a cette impression-là, c'est que nos aïeux ont respecté la forêt. Ils en ont pris soin, l'ont chérie. Pensons à ceux qui viendront après nous, qui habiteront nos terres. Est-ce qu'ils nous respecteront pour ce qu'on a fait? Notre rôle est de veiller sur la terre, de l'améliorer avec nos technologies. Nous sommes bons là-dedans. Ce qu'on fait là, en ce moment, c'est en profiter. Nous n'avons pas le droit de faire ça. C'est un crime contre la nature. On n'a qu'une seule terre. Si on la détruit, on ne pourra pas en acheter une autre au Dollarama. C'était « Vous êtes en train de jouer à la roulette russe avec la nature », un texte de Loïs Barahona, William Boulet-Sandoval, Chloé Chéré, Jacob Drouin et Mylène Faye, paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir.